1400 hectares ravagés par les flammes à Boulou-Paris, une maison détruite et un pompier légèrement blessé. Le gouvernement a activé le dispositif hors sec feu de forêt de niveau 2. De retour de Paris, le ministre de l'Outre-mer revient sur les aides de l'État après les émeutes au Sénat. Elles pourraient atteindre 1 milliard d'euros jusqu'à fin 2025. Débrayage du personnel de l'école catholique de Dombéa-sur-Mer ce matin. L'établissement a été caillassé hier. 3 jeunes enfants ont été touchés par ricochet dans la cour de récréation. En métropole, la poursuite de l'examen du budget à l'Assemblée nationale sur fond d'un nouveau scandale. Un député LFI a été interpellé alors qu'il achetait de la drogue sur un quai de métro. Et puis en sport, la troisième journée de Ligue des champions de football, marquée par la victoire de Monaco sur Belgrade et le match nul du PSG face à Eindhoven. En kitesurf freestyle, la Calédonienne Phoebe Rocher a conservé son titre de championne du monde junior. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons donc par cet important incendie qui touche la commune de Boulou-Paris depuis lundi. Plus de 1400 hectares sont donc déjà partis en fumée, un pompier a été légèrement blessé. Et du coup, le dispositif hors sec feu de forêt de niveau 2 a été activé ce matin par le gouvernement, Léana Colombo.
Le feu s'est déclenché du côté de Nassira en fin de matinée ce lundi. Le bilan provisoire fait état d'un sapeur-pompier du SIVM Sud légèrement blessé au feu ce lundi. Une habitation détruite par les flammes en bordure de la RP4 et plus de 1400 hectares de surface brûlée. Les pompiers sont actuellement à pied d'œuvre du côté de Huit-Chambeau, mais surtout Bouraquet. Le vent fort sur zone complique les opérations. Les précisions du capitaine Maël Kerlegu, responsable de l'intervention pour le SIVM Sud.
On a un fort vent sur zone qui est encore une fois tourné. On a actuellement une habitation qui est menacée au niveau de Bouraquet directement par le sinistre. Et on a des moyens qui sont répartis sur ces secteurs-là et principalement actuellement au niveau de la protection d'habitation avec l'HBE également en manœuvre. On avait un pompier qui a été blessé, effectivement, il a été pris en charge. Il a pu revenir sur l'intervention. Voilà. Là, de ce qu'on voit, la reprise qui est en cours, le feu n'est pas maîtrisé, n'est toujours pas maîtrisé.
Plusieurs exploitations agricoles ont été partiellement détruites et des familles ont été évacuées par mesure de sécurité. Le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori, évoque également des dégâts sur les réseaux d'eau et électriques et remercie les habitants de la commune pour leur aide.
On a des réseaux, des compteurs d'eau, des compteurs électriques, des lignes électriques, des barrières, puis des pâturages qui ont été impactés, bien sûr. Et c'est pas facile parce qu'en ce moment, pour les agriculteurs, c'est déjà une période difficile. Doivent se battre contre la sécheresse et là en plus cet incendie, on n'avait pas besoin de ça. Je voudrais remercier l'ensemble des pompiers à la fois professionnels et volontaires et puis tous les habitants de Boulou-Paris qui ont mis leur matériel à disposition parce que l'étendue du feu est tellement importante et avec un vent qui tourne, un feu qui part dans toutes les directions que même en renforçant les moyens pompiers, on n'y serait pas arrivé sans les bénévoles. Donc un grand merci à eux. Sans leur intervention, ça aurait pu être beaucoup plus grave, il aurait pu y avoir davantage de maisons brûlées, peut-être même des morts. On espère qu'en fin d'après-midi, dans la soirée, on arrivera à maîtriser ce feu avec une baisse du vent et peut-être un petit peu de pluie, on l'espère.
Depuis 7h30 ce matin, le président du gouvernement Louis Mapou a activé, je le rappelle, le dispositif hors sec feu de forêt de niveau 2 et a pris la direction des opérations de secours. Sur place, d'importants moyens sont déployés, des pompiers du SIVM Sud, de la sécurité civile, des moyens nationaux et privés, ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau se relaie pour tenter de maîtriser le feu. Une relève a d'ailleurs été opérée à 8h ce matin. Hier après-midi, la circulation avait été coupée dans les deux sens par les gendarmes, car le feu avait franchi la RT1, poursuivant sa course vers la mer. Il est toutefois actuellement possible de circuler dans la zone, mais toujours avec prudence.
Il était à Paris lors de la visite du ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Le sénateur Georges Naturel a profité de la séance des questions au gouvernement pour interpeller François-Noël Buffet, tout juste rentré de Nouméa, et relayer auprès de lui l'appel à l'aide des communes calédoniennes, Nicolas Legrand.
Oui, Georges Naturel qui a évoqué l'extrême fragilisation des budgets des communes après les émeutes du 13 mai. Et il s'est fait le porte-parole des maires pour réclamer une augmentation de la DGF, la dotation de fonctionnement global, et une aide exceptionnelle de 34 millions d'euros pour les budgets des communes du territoire.
Comment comptez-vous soutenir financièrement le budget de fonctionnement des communes calédoniennes pour la fin de l'année 2024? Et compte tenu des montants de DGF qui restent stables dans le projet de loi de finances pour 2025, comment allez-vous soutenir le fonctionnement pour l'année 2025, sachant que ces collectivités sont l'échelon essentiel du vivre ensemble et constituent le point d'appui de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie? Les communes de Nouvelle-Calédonie comptent sur vous.
Dans sa réponse, le ministre des Outre-mer a évoqué son récent déplacement en Nouvelle-Calédonie et les annonces qu'il a faites à cette occasion à destination des collectivités, et notamment la prise en charge à 100% par l'État pour la reconstruction des écoles, à 70% pour les autres bâtiments publics, ou encore les 4 millions d'euros pour les navettes maritimes de la province sud.
J'ai pu constater sur place la situation de la Nouvelle-Calédonie, en particulier la situation économique et singulièrement celle des collectivités locales, que ce soit les provinces ou évidemment les communes avec lesquelles je me suis entretenu, en tous les cas par l'intermédiaire de leurs représentants. À cette occasion, j'ai voulu quand même rassurer les communes en confirmant que le soutien de l'État dans le cadre d'un accompagnement spécifique sera mis en place et les communes bénéficieront donc d'une aide permettant à contribuer à la remise en état et ou, selon, à la reconstruction des bâtiments publics détruits et endommagés, conformément d'ailleurs à la note d'instruction que j'ai signée le 17 octobre dernier de Nouméa en réalité. J'ai demandé évidemment à notre haut commissaire de faciliter autant que possible le traitement des demandes de subventions par la mise en place d'un guichet unique destiné à centraliser le recensement des besoins et à accompagner les collectivités concernées. Ce guichet leur permettra d'accéder aux informations et dispositifs utiles pour accélérer la réparation des dégâts occasionnés par les événements du 13 mai et la reconstruction des biens détruits.
L'ensemble des services de l'État est mobilisé pour procéder à l'évaluation du montant des dégâts, ajoute François-Noël Buffet, qui rappelle les modalités pratiques des dispositions prévues.
Les collectivités devront tout être cause mobiliser en premier lieu les contrats d'assurance souscrits pour se couvrir contre les dommages. On sait bien qu'il y a des difficultés avec les assureurs, on est en train de s'en occuper. S'agissant des établissements scolaires, l'État financera intégralement et sans limite le financement et le reste à charge des collectivités après intervention des assurances. Pour les autres biens et équipements, les taux de subvention accordés par l'État seront modulés en tenant compte évidemment des crédits budgétaires disponibles, du caractère structurant des infrastructures concernées, de leur état de vétusté, de la situation financière des collectivités, bien sûr, maître d'ouvrage. Il pourra être à titre exceptionnel porté à 100% de l'assiette de dépenses subventionnables. Dans ce cadre, les communes et leurs groupements ont jusqu'au 17 novembre 2024 pour adresser au Haut-Commissariat les demandes de subvention. 17 novembre, le délai est suffisant, mais il est en même temps assez court. Il ne faut pas mollir.
Le ministre des Outre-mer annonce enfin une évolution de l'aide de l'État qui pourrait atteindre 1 milliard d'euros sur 2024 et 2025.
Au titre de la solidarité nationale et de l'urgence, cet accompagnement s'inscrit dans un plan global de soutien de l'État. Je rappelle que jusqu'au mois de septembre, l'État s'était engagé à la hauteur de 400 millions d'euros, bien sûr, que d'ici la fin de l'année, un effort substantiel sera fait à nouveau. Et dans le cadre du projet de loi de finances que nous aurons à connaître dans quelques semaines, on essaiera de proposer également encore une autre évolution de l'aide. Celle-ci pourrait se caractériser autour d'un milliard d'euros sur l'année à la fois 2024 et l'année 2025.
François-Noël Buffet, lors de la séance des questions orales qui se déroulait hier, donc pour nous au Sénat, dans un communiqué, le ministre des Outre-mer ajoute qu'au-delà de la garantie de 500 millions d'euros mobilisés pour le prêt AFD, le travail parlementaire pourrait permettre une augmentation de l'aide d'au moins 170 millions d'euros pour faire face à de nouveaux besoins.
L'annonce d'une très probable prolongation des aides de l'État pour la Calédonie est évidemment une bonne nouvelle, nous a dit ce matin Mimsy Delay, la présidente du MEDEF, qui est aussi l'une des porte-parole d'NCECO. Ne cache pas qu'il reste toutefois des inquiétudes.
Nous sommes effectivement satisfaits que le soutien de l'État soit confirmé. Pour autant, aujourd'hui, ce que nous avons dit au ministre, c'est que nous sommes très inquiets de la poursuite d'un certain nombre de dispositifs et du séquençage de ces aides. Il faut bien savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, la reconstruction n'a pas commencé. La reconstruction des bâtiments publics, la reconstruction des établissements professionnels détruits. Et pour autant, on parle de l'arrêt d'un dispositif essentiel qui est le chômage partiel. Nous savons que le chômage partiel ne durera pas toujours. Pour autant, il faut absolument commencer à lancer les travaux de reconstruction. Et pour cela, nous nous tournons évidemment vers les collectivités publiques qui vont être les principaux bénéficiaires de cette aide dans les mois qui viennent. Et nous les appelons à lancer au plus tôt les travaux nécessaires.
L'une des inquiétudes principales porte sur la prolongation du dispositif de prise en charge du chômage partiel. Le monde économique a demandé sa prolongation jusqu'à mi-2025, mais il pourrait être prolongé seulement jusqu'à la fin de l'année 2024, même si aucune annonce précise n'a été faite sur le sujet.
Nous sommes très inquiets parce que aujourd'hui, sans visibilité à plus long terme, les décisions de licenciement économique sont prises par les chefs d'entreprise parce qu'ils n'en ont tout simplement pas le choix. Cette absence de visibilité, elle est très dommageable, déjà parce que nous n'avons pas les dispositifs encore prêts sur le territoire pour traiter l'afflux de chômeurs. Tout simplement, un chômeur, il ne faut pas le laisser partir dans la nature. voiture, il faut pouvoir le suivre, le conseiller, lui proposer d'autres alternatives. Et deuxièmement, les dispositifs de chômage complet en Nouvelle-Calédonie sont notoirement insuffisants et ne permettent pas d'espérer le maintien dans un niveau de vie décent d'une grande partie de nos concitoyens.
Nous avons également interrogé Mimsy Delay ce matin sur le séminaire de deux jours, lundi et mardi, qui s'est déroulé au CCT sur la mise en place du plan S2R proposé par le gouvernement, un plan qui est presque finalisé au terme d'une large concertation, mais il reste maintenant à le mettre en œuvre.
Pour susciter une adhésion large, et on a besoin aujourd'hui de cohésion et de solidarité en Nouvelle-Calédonie, il fallait mener cette consultation très très large. Alors la méthode prend du temps, 3000 réponses, et là il faut souligner l'engagement des Calédoniens et de la société civile à répondre à la sollicitation du gouvernement, ont dû être traités. Le PS2R pose un certain nombre de constats. L'avantage, c'est que ces constats, ils ont le mérite d'être le fruit d'une consultation très large.
Donc ils sont partagés.
Ils sont partagés, je crois, en grande majorité sur la nécessité de réformer des pans anti notre économie, sur la nécessité de réduire drastiquement, et ça a été dit, les dépenses publiques, et sur la nécessité d'avancer vite. Le problème, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il va falloir maintenant poser des objectifs chiffrés et clairs sur chacun de ces constats et aboutir à des textes qui doivent être votés rapidement. Nous craignons que dans l'urgence, ce soit la facilité qui l'emporte, à savoir l'augmentation des impôts, et nous sommes très clair là-dessus. Les entreprises et les Calédoniens auront les plus grandes difficultés à encaisser des augmentations d'impôts. Il faut, au contraire, préciser très rapidement quelles vont être les modifications structurelles apportées à notre économie pour donner de l'air et du pouvoir d'achat et de l'espoir aux entreprises calédoniennes.
Mme Delay qui était notre invitée ce matin à 7h30. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Allez, c'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avant de marquer une première pause dans ce journal. Notre question du jour, les élus du Congrès ont émis un avis favorable au report des élections provinciales à fin novembre 2025. Et vous, y êtes-vous favorable? Si vous êtes favorable au report des provinciales, vous tapez 1. Si vous êtes opposé à ce report, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 82% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent la décision de prolonger le couvre-feu pour 15 jours supplémentaires jusqu'au 4 novembre. Ils sont 18% à dire qu'ils ne comprennent pas cette prolongation. À 11h42, une première pause avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Le Rouf est de retour avec ses horaires habituels et son service de restaurant traditionnel. Découvrez sa carte aux multiples saveurs et ses formules incontournables. La formule du midi à partir de 3400 francs ou encore le menu complet à 6300 francs à déguster midi et soir. Le Rouf, profitez d'un cadre exceptionnel face au lagon. Info au 25 07 00 ou sur la page Facebook Le Rouf.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La Cour de cassation a examiné cette nuit les recours de 5 militants de la CCAT qui contestent leur placement en détention provisoire en métropole. Elle a rendu un arrêt qui n'a toutefois pas été public. Ce sont les avocats de la CCAT qui ont communiqué à l'issue de l'audience, Nicolas.
Oui, il s'agit d'une procédure dans le cadre de l'enquête sur les commanditaires présumés de l'insurrection du 13 mai dernier. Leurs avocats contestaient plusieurs points. Le transfert vers la métropole qui avait été préparé au cours de la garde à vue, mais aussi le risque de rupture de confidentialité lors des entretiens en visioconférence. Alors ce qui s'est passé, le 5 juillet dernier, la cour d'appel de Nouméa devait notifier la confirmation du mandat de dépôt décidé par le juge des libertés et de la détention aux mises en cause en métropole. Et avant cette communication dans le cadre de la procédure, les avocats et leurs clients se sont entretenus en privé. Problème, un opérateur a commis une faute technique et a enregistré la conversation qui devait rester confidentielle. Immédiatement après en avoir été informé, la juridiction de Nouméa a décidé de supprimer les images. Malgré tout, c'est sur cette faute que la Cour de cassation aurait cassé la décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nouméa, selon Maître Claire Vaquet. Elle est l'avocate des leaders de la CCAT, car la décision de cette Cour de cassation rendue cette nuit ne concerne que 2 des 5 militants incarcérés dans des maisons d'arrêt de métropole.
Je pense qu'ils ont cassé sur 2 moyens qui étaient pour M. Ounet et qui existaient pour Christian Théa aussi, qui n'existaient pas pour les autres. Parce qu'au moment où on leur a fait des visioconférences devant la chambre de l'instruction avec leurs avocats, on leur a dit que leurs entretiens allaient être enregistrés ou étaient susceptibles d'être enregistrés. Bon, alors, je pense quand même que, nonobstant quelques circonvolutions que faisaient les rapporteurs, je pense quand même qu'ils ont cassé là-dessus. À partir du moment où on m'a dit cassation et pas cassation sans renvoi, je pense qu'ils n'ont pas cassé sur la question de la déloyauté du débat contradictoire que j'avais soulevé à propos du fait qu'ils avaient caché l'endroit où la détention se passait. Enfin, caché. En tout cas, ils ne l'avaient pas dit. Voilà. Évidemment, je suis contente qu'il y en ait deux, qu'il y ait une cassation, bien sûr. Ça concerne notamment Christian Théin, qui est un peu, comment dirais-je, emblématique du combat. Bon, ça aurait été bien que les autres l'aient aussi.
Et je rappelle que les leaders de la CCAT qui avaient introduit ce pourvoi en cassation sont mis en examen pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par ailleurs, deux autres mis en cause avaient été incarcérés au camp Est. L'un d'eux, Joël Tipaou, a été remis en liberté dernièrement et placé sous contrôle judiciaire. Guillaume Vama, qui a lui été incarcéré en métropole, a aussi fait une demande de remise en liberté. Une audience est prévue en visioconférence la nuit prochaine.
Les avocats des mis en cause ont également introduit un pourvoi en cassation pour demander le dépaysement du dossier. Le procureur général de la Cour de cassation devrait rendre sa décision avant la fin du mois. En septembre dernier, le procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, Bruno Dalle, avait rejeté la demande des avocats de la CCAT, qui demande donc à ce que ce dossier soit instruit en métropole et non pas à Nouméa. Trois enfants touchés par des jets de cailloux à l'école catholique de Dombéa-sur-Mer. Hier, aux alentours de midi, des jeunes ont tenté de caillasser les caméras de surveillance qui surveillent l'arrière de l'école. Et par ricochet, trois enfants ont été touchés. Ils présentent des hématomes. Des plaintes ont été déposées par les parents. Ce matin, l'ensemble de l'équipe d'encadrement de l'école a organisé un débrayage pour, je cite, « marquer sa colère ». Marielle Calonnet est la directrice de l'école.
Ça m'a fait très peur. J'ai été extrêmement choquée. C'est la première fois que ça arrive, donc le vandalisme, on sait, je banalise pas, hein, il y en a. Là, on a des touchés à des enfants, et c'est inacceptable. Ce matin, c'est montrer notre colère et ne pas accepter l'inacceptable. J'ai été très, très étonnée, puisque nous avons plusieurs parents qui sont venus, alors qu'ils n'étaient pas invités. Ils sont venus, et ça nous fait vraiment, à moi et à mon équipe, extrêmement plaisir. On se sent très, très soutenus, et Dieu merci, ce sont leurs enfants, ce sont nos loulous à nous, mais ce sont leurs enfants.
La direction diocésaine de l'enseignement catholique organise ce soir une réunion avec l'ensemble de l'équipe éducative et les parents pour éviter que ces actes se reproduisent. Deux personnes ont été interpellées par la police municipale et l'enquête continue. Le gouvernement a réagi par voie de communiqué dans lequel il condamne fermement ces actes et réaffirme le rôle sacré de l'école. En bref, la fête de la science se poursuit jusqu'au 28 octobre. Depuis vendredi dernier, de nombreuses actions sont menées dans le cadre de ce rendez-vous destiné aux collégiens, aux lycéens, mais aussi au grand public. Cet après-midi, c'est à l'Université de la Nouvelle-Calédonie que le vaisseau des sciences fera étape pour la journée de la science de 13h à 20h. Ça se passe sur le campus de Nouville où de très nombreuses animations sont prévues. Et puis toujours en bref, notez qu'Air New Zealand prolonge la suspension de ses vols vers la Nouvelle-Calédonie. La compagnie fait savoir qu'elle n'opérera pas de vol entre Auckland et Nouméa avant le 22 juin 2025. Il est 11h48, une nouvelle pause. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Les avis de décès sur RRB, trois rendez-vous chaque jour avec les pompes funèbres calédoniennes et Transcor. PFC et Transcor, assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un numéro, le 27 41 11. PFC et Transcor, vous accompagnez et notre priorité.
Dans vos stations Shell et Pacific, gagnez 4 Toyota Hilux, 730 cartes carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacific. Et n'oubliez pas votre carte fidélité.
Jeu sans obligation d'achat jusqu'au 21 mars 2025. Règlement disponible dans vos stations Shell et Pacific.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec le deuxième jour de l'examen du budget 2025 à l'Assemblée nationale et notamment sa partie recettes, pour réaliser les 60 milliards d'économies qu'il a annoncées, le gouvernement prévoit 20 milliards de recettes nouvelles sous forme principalement de hausse d'impôts. ce qui est inacceptable pour le Rassemblement national. C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen, qui a pris la parole comme chaque responsable de groupe politique à l'issue de la discussion générale. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
10 minutes de discours pour insister sur l'ampleur du déficit et pointer du doigt la responsabilité du dernier gouvernement. Marine Le Pen dénonce d'ailleurs un budget 2025 dans la continuité des précédents. Où est le changement ? Fait-elle semblant de s'interroger avant de brandir subtilement la menace d'une motion de censure.
En réalité, ce budget apparaît plus que jamais comme celui d'un gouvernement acculé, un gouvernement qui fait le choix paresseux du rabot et de l'impôt. Il n'est évidemment pas trop tard pour revoir votre copie. Nous espérons, pardon, vous en convaincre pour ne pas être obligé de vous y contraindre.
Marine Le Pen accusée à son tour par le camp présidentiel d'avoir participé au vote des 60 milliards de taxes supplémentaires décidées en commission des finances la semaine dernière. David Amiel, député macroniste de Paris.
Notre groupe s'est opposé aux 60 milliards d'euros de hausse d'impôts votés tous azimuts en commission des finances par une étrange alliance du Rassemblement national et du Nouveau Front Populaire. La justice fiscale, ce n'est pas le n'importe quoi fiscal.
Et la discussion se poursuit jusque tard ce soir, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus des débats, le 49-3 que Michel Barnier peut utiliser quand il le souhaite.
Et même si c'est le texte initial du gouvernement qui est étudié par les députés, ce que Michel Barnier avait qualifié de concours, l'épine fiscale se poursuit, chacun y va de sa proposition. Plusieurs élus appellent ainsi à augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou même à revenir sur l'annulation de cette taxe sur les résidences principales qui avait été décidée par Emmanuel Macron en 2023. Une telle perspective va alourdir la fiscalité locale et ce serait une triple peine, estime Sylvain Grataloup, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
La première, c'est que les propriétaires soient les seuls à financer les services publics. Deuxième peine, on leur demande bien plus que le montant initial. Et troisième peine, vous allez avoir des gens qui vont se débarrasser de leurs biens. Le propriétaire n'est pas celui que l'on imagine, un Français moyen.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Les discussions à l'Assemblée nationale se poursuivent alors qu'un nouveau scandale éclabousse le groupe France Insoumise. Le député Andy Carbrat a été interpellé jeudi en flagrant délit alors qu'il achetait de la drogue sur un quai de métro, de la drogue de synthèse pour sa consommation personnelle. Il a reconnu les faits et se déclare prêt à se soumettre à un protocole de soins pour lutter contre son addiction. Andy Carbrat fait partie des députés engagés pour la lutte contre la consommation de drogue et cette affaire fait vivement réagir dans la classe politique. Alexis de La Fontaine.
Face au scandale, la France insoumise fait à nouveau bloc derrière son camarade. Tout notre soutien, lance la députée Sophia Chikirou. L'ensemble du Nouveau Front Populaire salue sa volonté d'entamer un parcours de soins, mais aucun élu de gauche ne condamne sa participation au trafic de drogue. En interne, ils sont pourtant très nombreux à tomber des nues, car l'arrestation d'Andy Carbrat est à l'opposé de son image publique sur le sujet.
J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains.
Andy Carbrat justifie sa consommation par des problèmes personnels et des fragilités psychologiques, mais précise aux enquêteurs avoir acheté cette drogue dans l'objectif d'une soirée chemsex. Il avait pourtant signé la semaine dernière une pétition pour lutter contre cette pratique qu'il qualifie de fléau. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, juge ce comportement intolérable et demande aux députés insoumis d'en tirer toutes les conséquences.
Et toujours en métropole, Nicolas Bedos, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. L'acteur et réalisateur effectuera sa peine sous bracelet électronique. Il a été condamné pour agression sexuelle à l'encontre de 2 femmes dans des établissements de nuit en 2023. L'acteur qui reconnaît, je cite, être lourd lorsqu'il est ivre, ce qui était le cas au moment des faits, nie le caractère d'agression sexuelle. Son avocate, maître Julia Minkowski, est stupéfaite par la décision du tribunal.
Sur le fait que nous assistions bien davantage à une leçon de morale sur l'intégralité de sa vie que sur une justice respectueuse des droits. Dans ces conditions, nous allons former immédiatement appel.
Un appel qui ne sera pas suspensif. Nicolas Bedos va devoir commencer à exécuter sa peine. Et de son côté, l'avocat des plaignantes est satisfait de la décision de justice.
Je me satisfais d'une décision qui, dans son principe, fait avancer la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et surtout, cette décision elle dit quelque chose d'important, que l'alcool ne pourra jamais l'être un paravent pour se déresponsabiliser.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1 à l'issue donc de cette condamnation de Nicolas Bedos. Il est 11h54, dans un instant l'actualité sportive et notamment la 3e journée de Ligue des Champions. 2 clubs français ce matin étaient sur les pelouses.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
cherchez un véhicule d'occasion au meilleur prix, entretenu, révisé, garanti? Au parking Birakem, en ce moment, 50 véhicules d'occasion sont à moins de 1 million. Alors c'est le moment d'en profiter. 50 véhicules seulement, à moins de 1 million de francs. Rendez-vous au parking Birakem, au 4e kilomètre. Nous avons certainement votre future voiture. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et donc du football pour ouvrir cette page sport, Michael Juneski, avec la suite donc de la Ligue des Champions.
Et tout d'abord, ce nul du Paris Saint-Germain contre les Néerlandais du PSV Eindhoven. Score final, un but partout. Malgré sa domination, le PSG a vu les joueurs d'Eindhoven ouvrir le score à la 34e minute de jeu. En deuxième période, le but d'Hakimi à la 55e a permis aux Parisiens d'éviter le désastre. Mais ce score de parité laisse un goût amer à Paris qui totalise une victoire, un nul et une défaite à l'issue de cette troisième journée. Avant d'affronter l'Atlético Madrid et à quelques jours du choc contre Marseille en Ligue 1, le capitaine Marquinhos espère que Paris trouvera les ingrédients pour concrétiser sa maîtrise dans le jeu.
C'est même dur à expliquer, je pense que depuis le match de Dortmund, si on le voit, qu'on a beaucoup d'occasions, ça a manqué un peu de lucidité devant le but. Je pense que c'est des petits détails, comme on dit à chaque fois, c'est des petits détails dans les grands matchs, ils font la différence. On méritait cette victoire parce qu'on a eu les occasions et ça a été trois points très importants qu'on a laissé passer. Et je pense que voilà, pour les prochaines confrontations, il va falloir chercher des points difficiles.
Et de son côté, l'AS Monaco a brillé face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Succès des Monégasques, 5 buts à 1. Monaco qui tient la cadence. 2 succès et 1 nul en 3 rencontres. Minamino a notamment inscrit un doublé dans ce match. Les autres résultats du jour et le Real Madrid qui a réalisé une belle remontada contre le Borussia Dortmund. Succès 5 buts à 2 alors que les Madrilènes étaient menés 2-0 jusqu'à l'heure de jeu. Pas de but de Mbappé mais un triplé pour Vinicius Junior. Arsenal l'a emporté contre le Shakhtar Donetsk 1-0. La Juventus Turin a perdu à Stuttgart 1-0. Victoire encore du Milan AC de Mike Maignan contre Bruges 3 buts à 1.
Cette troisième journée de Ligue des Champions se poursuit demain matin. On suivra deux clubs français, Lille et le Stade Brestois.
Les surprenants Bretons de Brest, première participation à la compétition Reine des clubs et déjà 2 victoires au compteur. Demain, les Brestois retrouveront un cador du championnat allemand, le Bayer Leverkusen. L'attaquant de Brest, Ludovic Ajorc, n'a pas peur du dernier vainqueur de la Bundesliga.
C'était nos deux premiers matchs de Ligue des Champions. On a pris 6 points. Tu ne peux pas faire beaucoup mieux, quoi. Voilà. En plus, on a mis des buts. Non, demain, voilà, on sera très concentré pour faire un grand match. Donc, il va falloir être quasiment parfait demain pour gagner ce match.
Brest, Bayer Leverkusen à suivre à partir de 3h45. De leur côté, les Lillois auront fort à faire sur le terrain de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Match à suivre à partir de 6h. D'autres chocs encore. Le FC Barcelone qui retrouvera le Bayern Munich. Quant aux Reds de Liverpool, ils affronteront les Allemands de Leipzig. Manchester City retrouvera le Sparta Prague. Et l'Inter Milan ira défier les Young Boys de Berne, toujours à partir de 6h.
Quelques infos en tennis pour poursuivre cette page sport.
Oui, au tournoi de Vienne, dans un duel franco-français au premier tour, Gaël Monfils a battu le jeune Quentin Alice, 7-6, 6-3. On joue aussi le deuxième tour de la ATP 500 de Bâle. Dès ce soir, le tricolore Hugo Humbert affrontera le Belge David Goffin. Quant à Adrian Manarino, il croisera le fer avec le vétéran Stan Wawrinka sur ses terres en Suisse.
Et on termine avec le sport côté calédonien et en métropole. Phoebe Rocher a décroché un nouveau titre de championne de France de kitesurf freestyle.
Déjà titrée mondialement en septembre dernier, elle s'est imposée dans la catégorie junior pour la troisième fois de sa carrière tout en poursuivant la compétition chez les seniors. Des championnats de France qui ont débuté lundi, des conditions compliquées, mais Phoebe Rocher était forcément ravie aujourd'hui avec ce titre.
Aujourd'hui, on a finalement pu avoir du vent pour faire la catégorie espoir femme. J'ai remporté la finale, donc j'ai mon troisième titre de championne de France espoir. Il y a un mois, j'ai gagné les championnats du monde junior à Tarifa. Donc c'est trop bien, ça finit la saison en beauté. Et pour le restant de la semaine, je suis aussi inscrite en Open. Donc je vais essayer de gagner cette catégorie-là aussi. Et puis ce serait tout.
Des championnats de France qui se déroulent à Le Cat, dans le sud de la métropole, Port Le Cat. Et je rappelle qu'un autre Calédonien est engagé également dans ces championnats de France. Antoine Olivier, qui s'est qualifié pour les demi-finales chez les juniors. Il sera aussi, jusqu'à la fin de la semaine, engagé dans la catégorie Open.